Alors, c'est dans la Genèse, chapitre 17, 18, pardon, excusez-moi, 18, 1 à 21. L'Éternel lui apparut parmi les chiens de Mamré. Comme ils étaient assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. » J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris, et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau. Prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi que je suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. C'est jusqu'à 21, je pense. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel le dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Parole du Seigneur.
Le deuxième texte se trouve dans les Éphésiens, chapitre 1, versets 7 à 10. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés de ce qui nous tenait captifs et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous comprenions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ.
J'aimerais, si vous, nous avons nos Bibles avec nous, qu'on les ouvre dans ce passage de Genèse au chapitre 18, où on va passer l'essentiel de notre temps. Juste avant cela, encore un verset dans les Galates qui dit ceci: « L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les non-juifs par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. » Alors, on se retrouve ce matin après le temps de l'été. Vous avez eu vos vacances ou vous devez encore les avoir. Nous, vous le savez peut-être ou pas, nous sommes partis en Angleterre. Et puis, certaines choses se trouvaient comme toujours. Le camping où on va dans les Cornouailles, ça n'a pas changé depuis 40 ans. Ni le temps, d'ailleurs. Et puis, on était une convention chrétienne dans la région des Lacs. Ça n'a pas changé depuis 150 ans. Et puis, on revient. Et puis, on entend parler d'anarchie, violence, et le premier ministre qui dit que l'Angleterre, c'est une société moralement brisée. Quelles sont les réalités de ce monde où nous vivons? Quelles sont les intentions de Dieu pour ce monde où nous vivons? Est-ce que c'est pour y mettre fin au plus vite, en finir avec? Pourquoi Abraham est passé aux chaînes de Mamré aux heures du repas? Et puis, est-ce que Dieu a des attentes sur nous, en ce qui nous concerne? Pourquoi sommes-nous toujours là, au moment de reprendre nos habitudes, entrer dans une nouvelle année pour nos jeunes? Qu'est-ce que Dieu peut attendre de nous? Alors, nous allons suivre, si vous avez vos Bibles, les versets 16 à 19 que je vous relis dans Genèse 18, parce que on va visiter Sodome, on va considérer Abraham et la mission de Dieu, et puis on va réfléchir ce que ça peut être la voie de l'Éternel. Trois choses que nous trouvons dans ce passage. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. L'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Sodome et ce cri au secours qui monte de notre monde. Finalement, est-ce que le monde où Abraham vivait était très différent d'une autre? Parce que dans ma version, c'est ce qu'on reproche à Sodome, mais en réalité, c'est un cri au secours qui monte de la terre. Un cri au secours à cause des violences qui existent dans notre monde. C'est le même mot et le même cri que quand le peuple de Dieu était esclave en Égypte, on jetait les premiers-nés mâles dans le Nil. C'était une souffrance terrible et un cri mentait à Dieu. Le même cri. C'est le même cri, le même mot, quand dans le Deutéronome, la Bible dit « Et la femme violée qui crie au secours et personne ne l'entend. » Il y a violence et injustice dans ce monde où Abraham vit. Et la Bible dit que l'Éternel entend les cris des malheureux. Il y a des gens qui souffrent et qui crient au secours dans ce monde. Et Sodome, quelque part dans nos Bibles, est passé en proverbe pour ce monde-là. Le chapitre suivant va dire que dans l'ennui de leur surabondance, ils sont passés à toutes sortes de perversions. Mais c'est pas que ça dont la Bible parle quand elle évoque Sodome. Ésaïe va dire, mais vos mains sont tachées de sang, en parlant de la violence de leurs responsables, comme à Sodome. Jérémie va dire, vous marchez dans la fausseté, vous fortifiez les mains de ceux qui font le mal, comme à Sodome, le monde d'Abraham. Ézéchiel souligne surtout l'orgueil. Vous avez le pain à satiété. Vous vivez dans une insouciante tranquillité. L'arrogance, c'est surtout ça, Sodome, qui est souligné. L'orgueil de cette population qui pensait tout avoir et rien à craindre. Il y a quelques semaines de ça, Dominique et moi, nous avons fait les touristes ici à Genève. On peut aller au bureau de tourisme, acheter un MP3, qu'on branche les deux, et puis un tour de ville. On a visité la vieille ville. Et c'est très pratique parce qu'on peut arrêter le commentaire quand on veut. On s'est assis, boire quelque chose. Et puis... Une table, il y avait un groupe, je dois avouer, d'anglais à côté. Et puis, on ne pouvait pas empêcher d'entendre la conversation sur le Natel. Manifestement, c'était quelqu'un dans les affaires, dans les finances. Et il y avait un client au bout du fil qui ne devait pas être très satisfait de ses services. Mais il a parlé avec une arrogance à cette personne au téléphone, comme pour lui, aucune responsabilité, la faute était sur l'autre. Affluence, indifférence, suralimenté et insouciant, tel était Sodome. Et Dieu resterait indifférent. Il va voir comment les choses se passent. Et Abraham vivait dans un tel monde. Et nous aussi. Et c'est dans ce monde-là que Dieu est venu. Faire un constat, oui. Annoncer un jugement à venir, oui. Mais est-ce que c'est tous le message qu'il avait apporté? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi Dieu est passé par là vers les chaînes de Mamré autour des heures de repas? D'abord, je dis Dieu est passé, mais qui finalement sont ces visiteurs inattendus que Abraham a si gentiment invités à sa table? Nous savons que c'est Dieu parce que c'est dit au premier verset. Mais Abraham, probablement pas ou pas encore. Pourquoi est-il passé? Pour une leçon improvisée d'araméen. Where is Sarah? Sarah is in the kitchen. On sait que si le mari a un don d'hospitalité, c'est les femmes qui se trouvent dans la tente à faire la cuisine. Où est Sarah? Abraham a dû dresser les oreilles quand il a entendu ça. Parce que c'est seulement depuis quelques jours ou maximum 3 mois, si on lit le chapitre précédent, qu'elle s'appelle Sarah. Qui est ce visiteur qui sait qu'elle a ce nouveau nom? Et en plus, il va commencer à parler de la promesse de sa future grossesse. Et finalement, il semblait connaître les pensées secrètes de son cœur. Et pourquoi Sarah, malgré ses protestations, j'ai pari, pourquoi elle n'y croit pas trop à ce que raconte ce visiteur? Peut-être Abraham avait l'habitude d'inviter de drôles de oiseaux, il ne fallait pas trop écouter. Ou peut-être le pauvre Abraham, il n'a pas encore eu le temps de tout raconter. Je lis le chapitre 17, les versets 15 à 17. Dieu dit à Abraham, Sarah n'était pas là, « Pour ce qui est de ta femme, Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. » Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle ? » Pourquoi Sarah n'y croyait pas trop ? Alors, nous les hommes, on sait que quand on rentre à la maison, on n'a pas le temps de rencontrer tous les détails de nos rencontres de la journée. Donc peut-être Abraham, avec toute cette occupation et ses invités, n'a pas eu le temps de dire à Sarah, « Mais Sarah, j'ai oublié de te dire que tu vas avoir un fils. » Et puis on va l'appeler Isaac. Peut-être... Plus sérieusement, pour Sarah, elle a vécu d'innombrables déceptions. De mois en mois, d'année en année, elle espérait, elle priait, et rien s'est passé. Et honnêtement, elle n'y croyait pas trop à ce discours. Ses prières restaient sans réponse. Dieu, il exauce les prières, mais pour moi, je le constate pas trop. Est-ce que son bras est devenu trop court en ce qui me concerne moi? Alors pourquoi Abraham est passé par là, ce jour-là? Est-ce que c'était une bonne adresse, bien connue? Une bonne table? Dieu est passé parce que en chemin pour exercer le jugement, il s'arrête pour rappeler son premier projet, sa première promesse, sa promesse de sauvetage. Il rappelle qu'il a annoncé d'avance comme une bonne nouvelle à Abraham qu'en lui, toutes les nations seront bénies. C'est son projet prioritaire devant toute autre chose. Il n'oublie pas une Sarah, autant fixée, verset 14, autant fixée, Sarah aura un fils. Il entend ceux et celles qui crient à lui, oui. Mais surtout, il passe pour rappeler ses promesses faites à Abraham. Une bonne nouvelle pour tous les peuples, partout. De ce monde dispersé sur la surface de la terre à cause du péché, chapitre 11, l'histoire de Babel, Dieu désire offrir sa grâce à chacun avant que le jugement ne tombe sur ce monde qui a déraillé. Le Dieu de l'univers est passé pour rappeler la promesse de la bonne nouvelle à un monde qui ressemble à Sodome. Et puis, on a lu que, on a vu au verset 20, verset 19, que il a choisi, Abraham est choisi, nous pouvons dire que nous sommes choisis de Dieu, mais pas pour ensuite s'ennuyer ou attendre passivement sans retour, mais afin que nous marchions dans la voie de l'Éternel et que nous pratiquions le droit et la justice. Je veux créer dans ce monde, dans Sodome et l'image, un peuple qui marche dans les voies de l'Éternel. Je veux apporter une abondance de bénédictions et faire un peuple qui sera comme Dieu et non pas comme Sodome. Je désire que toutes les nations de la terre soient bénies. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour prendre des chemins de droiture et de justice dans nos relations, dans nos familles, là où le Seigneur nous a placés. Nous avons changé de camp. Et la manière que nous vivions, que nous luttions pour maintenir notre différence, ce n'est pas indifférent. Vous dites, mais maintenant je suis plus tellement en mesure d'être un témoin. Notre doyenne, quand nous étions au Locle, elle avait passé 90 ans quand elle a dû entrer dans un EMS. Quand il s'agissait de ce choix délicat de changer de recueil de chants et acheter le GEM 2, elle était la première d'inscrire son nom pour l'achat d'un cantique. Elle a dit certainement il y aura de beaux cantiques dans ce recueil. Quand elle était en EMS, la chef de l'EMS, quand j'étais vers Suzy, elle a dit vieillir comme ça, je suis partante. Partout où nous sommes, nous pouvons continuer dans les voies de l'Éternel. Et en tant qu'Église, c'est pour ça que nous voulons rejoindre Merin ensemble. Nous désirons appuyer nos envoyés dans le groupe mission parce que nous savons que le projet de Dieu, le plan de Dieu, c'est d'apporter cette bénédiction à toutes les nations, à tout un chacun. Dieu est descendu, le Dieu de l'univers est descendu dans un monde qui ressemble à Sodome. Il connaît le monde où nous vivons. Il désire accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham, que chacun soit béni. Et il nous invite à entrer dans cette grande histoire, ce plan éternel d'être acteur, joueur, participant là où nous nous trouvons. Sodome fait monter encore un grand cri au secours. Dieu passe par là dans nos vies pour nous rappeler qu'il a un plan éternel qu'il est en train d'accomplir. Mais il nous dit les voies où nous devons marcher pour maintenir notre distinction et permettre que beaucoup d'autres entrent dans ces voies. Alors, c'est la reprise, la routine qui reprend, ou c'est les activités qui viennent submerger nos années de retraite, ou c'est l'occasion de repartir, et tout en sachant que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, participe à ce que le Seigneur accomplit dans ce monde éloigné de lui. Lui, il a tout fait. Maintenant, nous pouvons, avec lui, continuer à réaliser son plan merveilleux. Que le Seigneur nous accorde à maintenir son projet prioritaire et ne pas nous laisser dévier dans des choses agréables peut-être, mais sans valeur par rapport à l'éternité. Amen.